Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, un podcast où on parle de recommandations culturelles et où je vous fais part de mes toutes dernières découvertes, qui ne sont pas forcément les choses les plus récentes de la Terre, mais qui sont quand même cool et que vous ne connaissez peut-être pas. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je vais vous parler de séries télé, évidemment, et d'une app que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui, je pense, pourrait vous être bien utile. Donc, comme vous le voyez dans le titre de l'épisode, on va parler de Viking, de The Last Kingdom et de Down Dog. Et il y a généralement deux trucs dont je parle dans l'émission. Là, il y en a trois parce que les deux premiers, c'est un petit peu la même chose. Alors, je vais vous faire remonter au mois dernier à l'origine de ma grande saga nordique pour les séries Viking et The Last Kingdom. En fait, vous le savez, je suis un grand fan de jeux vidéo et j'aime tout particulièrement Assassin's Creed depuis ses derniers opus, Assassin's Creed Odyssey en particulier. On avait depuis longtemps des rumeurs sur le fait que l'Assassin's Creed de cette année allait se situer dans le contexte des invasions vikings, et on a eu la confirmation que c'était effectivement le cas avec Assassin's Creed Valhalla. Bon, on n'est pas là pour parler du jeu vidéo, mais à cette occasion, j'ai été évidemment, je me suis découvert un appétit insatiable pour les aventures des Vikings en attendant le jeu lui-même, pour lequel les informations ont été particulièrement limitées. Et donc, je me suis tourné vers ces deux séries dont j'entendais parler depuis longtemps. Viking d'une part, qui existe depuis, je dirais, un bon 6 ans, 7 ans. Et The Last Kingdom, qui existe depuis peut-être 5 ans, peut-être même plus. Vous savez quoi, je vais faire mon boulot et je vais aller sur Wikipédia pour vous donner les détails exacts qui finalement n'ont pas énormément d'importance, mais qui peuvent donner un petit peu de contexte. Alors, on regarde pour Viking. La série de 2013, c'est effectivement une série qui a été développée par The History Channel, je crois. Donc, il y a une approche qui est censée être relativement historique, mais qui, bon, dans la pratique, c'est pas forcément l'idée. Ah non, ça n'a pas été développé par The History Channel. Bon, peu importe, dans tous les cas, c'est une série qui est essentiellement, disons que elle tente d'être un petit peu historique dans le sens où c'est une série qui est placée dans un contexte historique, mais il y a quand même, c'est des personnages un petit peu légendaires et c'est des faits qui sont pas forcément hyper réalistes. Il y a un petit peu de mysticisme, mais très léger par petites touches. Bref. On est dans une série qui n'a pas la prétention forcément d'être parfaitement exacte. Le cas de The Last Kingdom est un petit peu différent, puisque là, c'est une série Netflix, et l'idée est d'être un petit peu plus proche de la réalité historique, avec tout de même des grandes libertés qui sont personnifié par le personnage principal, alors c'est une série qui avait été développée par la BBC pour les deux premières saisons et qui aujourd'hui a été reprise par Netflix, il semble, dans le cadre de The Last Kingdom. Et donc, on est dans un contexte un petit peu plus historique, d'autant plus que The Last Kingdom est basé sur un ouvrage de Bernard Cornwell qui s'appelle The Saxon Stories, qui raconte les invasions vikings dans le contexte de l'Angleterre de l'époque. Alors, je parle de l'époque. On est pour Viking un tout petit peu plus tôt, au tout début des invasions vikings. Je crois qu'on est au début du 9e siècle, fin du 8e, donc 700. Voilà. Alors ils disent, ça se base, ça commence avec la première arrivée, le premier raid à Lindisfarne dans le cas de Viking, qui a eu lieu en 793. Donc c'est, on va dire, en gros, les premiers rapports qu'on a sur les premiers raids des Vikings dans le nord de l'Angleterre. The Last Kingdom, c'est bien après. On est je crois, environ un siècle après. C'est ça, on commence en 866. Donc, à ce moment-là, les invasions vikings sont beaucoup plus fréquentes et l'Angleterre, ou ce qui n'était pas encore l'Angleterre, était habituée à l'idée des raids de vikings. Mais en plus de ça, il y avait beaucoup plus de populations nordiques et scandinaves qui étaient établies en Angleterre. Donc le rapport est un petit peu différent et ça se reflète, c'est à ce point que je veux arriver, parce que les deux séries sont vraiment très très bonnes. Pour moi, il y a... Alors, c'est pas les meilleures séries de l'histoire, mais elles vous donnent clairement ce qu'elles vous promettent. Et on a des grandes qualités pour ces séries, des qualités de recréation du contexte historique, même si on colle pas à 100% à la réalité historique, c'est-à-dire que c'est vraiment des séries d'époque qui sont pas faites avec 4 euros, quoi. Il y a des gros moyens qui sont mis là-dedans, il y a des villages, des villes, des costumes qui sont recréés, et donc on nous plonge vraiment dans l'ambiance de cette époque de manière très convaincante. Donc à ce niveau-là, déjà, on a énormément de qualité pour ces séries parce que on n'est pas dans un truc cheap. Ensuite, elles sont passionnantes. C'est des séries d'aventure. C'est pas des séries qui sont particulièrement cérébrales, on va dire. Même si il y a un petit peu de ça quand même, mais c'est plutôt des séries d'aventure. Et là aussi, on a l'aventure médiévale dans un contexte qu'on n'a pas. Forcément connu par avant, auparavant. C'est un contexte qui nous est pas familier parce que tout ce qui est médiéval dans l'Europe centrale, on connaît un petit peu, on a l'habitude. Là, avec le contexte des Vikings, c'est quelque chose qui nous est pas. On a le plaisir de la découverte de cet univers également. Et c'est fait avec pas mal de subtilité. Je trouve, c'est quelque chose qui s'attache à montrer les bons et les mauvais côtés des deux cultures qui sont constamment confrontées l'une contre l'autre, donc la culture saxonne et la culture nordique, viking. Et il y a assez peu de jugement, il y a une présentation qui est relativement neutre des deux cultures et des deux façon de vivre, en fait. Et du coup, pour cet aspect, la promesse est tenue dans les deux séries. Et je trouve que vraiment les deux sont de bonne qualité. J'avais posé la question au début de cette aventure sur Twitter et ailleurs, et j'avais demandé quelle est la série que vous préférez. Et il y a des gens qui répondaient: ah, celle-là, elle est vraiment, je comprends pas pourquoi les gens disent que celle-ci est meilleure, vraiment celle-là, elle a tellement plus de qualité. Justement, il y a des gens qui insistaient sur la réalité historique, etc., qui au final n'est pas hyper importante, mais moi, au visionnage, j'ai vraiment pas eu l'impression que l'une était largement au-dessus de l'autre. Alors, certaines ont l'une a des défauts que l'autre n'a pas, certainement. Je pense à The Last Kingdom, par exemple. En particulier dans la première saison, le personnage principal est tellement stupide que ça en devient frustrant et que ça rend le visionnage de la série un petit peu difficile. Mais c'est complètement compensé par d'autres aspects du jeu, de l'histoire, de l'aventure dans laquelle on nous emmène. Et c'est vraiment ça dans les deux séries, c'est l'aspect aventure qui fonctionne, mais complètement. Alors, j'en viens à la chose qui est la plus importante finalement. Si vous devez choisir quelle série regarder, parce qu'elles ont beaucoup de points communs, eh ben, je crois qu'il y a un aspect qui peut vous décider à laquelle vous pourriez préférer. C'est le point central de focalisation, le focus du propos. Parce que dans Viking, comme je le disais, on est bien plus tôt dans les, disons, siècle et demi, 2 siècles d'invasion viking, et donc on est beaucoup plus centré sur la culture viking elle-même. On suit les aventures de Ragnar Lodbrok, qui est un personnage, on va dire, semi-historique, semi-légendaire, avec lequel, bien sûr, dans ce cas-là, comme dans d'autres, ils prennent des libertés. Et on suit ses aventures alors qu'il vient du contexte et de la culture viking, complètement. Et donc, en particulier dans les premières saisons, on est très peu en Angleterre. Ça arrive, mais on est assez peu en Angleterre. Et du coup, on a cette focalisation qui est vraiment très forte sur la culture viking. Dans The Last Kingdom, bah, comme vous le comprenez, on est dans beaucoup plus dans bah, ce qui est The Last Kingdom, donc Wessex, l'un des quatre royaumes saxons avant l'avènement de l'Angleterre. Et c'est l'un des derniers qui n'est pas complètement sous l'influence des Danois et des Vikings. Et on centre toute l'histoire, toute l'aventure sur les efforts d'une part de Uhtred, qui est le héros de l'histoire, mais qui là a comment dire, qui est beaucoup plus fictif comme personnage, d'après ce que je comprends, et son pendant en Angleterre, le roi Alfred, qui pour le coup, il faut que je le précise, c'est le seul acteur de toutes ces séries, de ces deux séries, qui est vraiment incroyable. Pour le coup, il y a des bons acteurs dans les deux séries. Selon certains, le jeu de Travis Fimmel, qui joue le personnage principal de Viking, Ragnar, est très bon. Moi, je dirais qu'il est bon, c'est pas mal, il y a plein de bons acteurs, mais pour le coup, le personnage du roi Alfred est vraiment saisissant. C'est un acteur de première qualité, et donc ça amène pas mal à cette série. À chaque fois qu'il est à l'écran, on passe à un autre niveau, quoi. Mais donc, on est vraiment centré sur donc Uhtred, et donc le roi Alfred. Et donc, on est dans ce contexte saxon et on passe très peu de temps dans les pays nordiques. Même si on a évidemment notre dose de culture viking, parce que bah, les vikings, ils sont là, ils sont en Angleterre et ils font une partie complètement intégrante, ils font partie intégrante de l'histoire. Donc, recommander l'une plutôt que l'autre, franchement, vraiment, c'est difficile. Ça va être en fonction de vos goûts personnels. Moi, j'ai énormément apprécié les deux. La série Viking dure depuis plus longtemps et elle a plus de séries, plus de saisons. Je dirais peut-être que dans la série The Last Kingdom, on a un petit peu plus de légèreté. Même si, bon, les Vikings, c'est pas des enfants de cœur, et au Moyen-Âge, en Angleterre et ailleurs, c'était pas la joie tout le temps. Donc, on n'est pas dans des trucs super marrants, mais on a un peu plus de légèreté dans le contexte de The Last Kingdom, et des personnages un peu plus marqués encore. Ils sont très marqués dans Vikings aussi, mais il y a des personnages qui sont, on dit en anglais colorful, qui sont plus pittoresques presque. Et ça marque un petit peu plus une fois qu'on a fini les saisons. On se souvient, ah, il y avait tel personnage qui était cool, tel personnage qui était cool. Dans Viking, on a une monotonité dans le sens où ils sortent moins du lot, tous les personnages. C'est tous des vikings, oui, ils ont des caractéristiques différentes, il y a des personnages intéressants. On pense à Floki, par exemple, ou enfin, il y en a plein qui sont vraiment intéressants, mais on a moins de personnages qui sortent vraiment complètement du lot, comme c'est le cas peut-être dans The Last Kingdom. Mais vraiment, je suis un peu en train de chercher la petite bête, je crois. Les deux sont de grande qualité, et, enfin, de grande qualité. Encore une fois, c'est pas les meilleures séries de l'histoire, mais les deux donnent vraiment ce qu'on espère en y allant. Donc, voilà, c'est les deux séries, je les recommande, les deux sont super cool, et je pense que vous serez, si l'idée de voir les aventures de Vikings en Angleterre vous plaise, eh ben vous serez pas déçus. Si c'est plutôt la partie de Vikings qui vous attire, bah allez vers Vikings. Si c'est plutôt la partie de en Angleterre qui vous attire, eh ben allez plutôt vers The Last Kingdom. Dernier élément sur cette discussion, est-ce que c'est recommandé pour tout le monde, pour les fans ou pour personne? Bon, bah, évidemment, moi, dans le cadre de Positron, c'est les trois catégories que j'ai créées. Pour personne, évidemment, je parle jamais de séries que je recommande pour personne ou de trucs que je recommande pour personne. Là, je dirais, on n'est pas tout à fait au niveau de pour tout le monde. Parce qu'il y a quand même des choses qui plairont pas. C'est de l'aventure, c'est de l'action, c'est de la violence, c'est un peu gore parfois. Donc, c'est pas un truc que je recommanderais à n'importe qui. C'est pas des trucs qui transcendent les catégories et le genre pour être recommandables à tout le monde. Donc, c'est plutôt pour les fans. Mais les fans seront très satisfaits, je crois, des deux séries. Donc voilà, Viking et The Last Kingdom. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est une app qui s'appelle Downdog. Et Downdog, c'est une app que je recommanderais pour le coup vraiment à tout le monde et qui est pas juste pour les fans. C'est une app de yoga. Downdog, c'est la position de yoga qui s'appelle chien tête en bas en français. Et c'est une application de pratique du yoga. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bon, on connaît ce type d'application d'exercice, d'application de méditation, d'application de yoga. Ça vous met des vidéos qui vous disent quoi faire, et puis voilà. Et bien, en fait, non. Celle-ci, elle est, au final, le résultat, c'est que c'est des séances de yoga qui sont effectivement en vidéo, mais la conception de l'app et la manière dont elle construit les séances de yoga change tout. En fait, c'est une app qui, dans laquelle les séances de yoga sont effectivement faites en vidéo, mais elles sont construites à partir de petits éléments et de petites positions et de transitions d'une position à l'autre, de manière complètement personnalisée pour ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Et ça change énormément la pratique parce que chaque séance est différente, en fait. On lance l'application, on peut décider de différents facteurs. Je vais la lancer là pour vous dire exactement de quoi il s'agit. Alors, on peut choisir le type de pratique. C'est des pratiques genre complètes, ou ensuite il y a des choses plus douces, des choses sur chaise, des choses pour s'endormir, etc. D'une manière générale, la pratique complète, c'est la pratique normale qui convient à la plupart du monde. Évidemment, il y a un niveau. Débutant 1, débutant 2, intermédiaire 1, intermédiaire 2, avancé. On peut choisir de se concentrer sur un élément en particulier, comme le renforcement du dos, la respiration, etc. Et puis, on choisit la durée de la séance, la quantité de savasana, qui est le repos à la fin, en fait, la détente à la fin. Il y a d'autres éléments qu'on peut choisir aussi, et puis on lance la séance, ça construit la séquence, et puis ça lance le truc. Et à chaque fois, la séance est un petit peu différente, donc ça limite énormément la monotonie dans cette pratique. Moi, ça fait quelques semaines que je fais des pratiques de 15 minutes par jour. Donc c'est très court, ça ne perturbe pas trop mon quotidien, et je peux les faire, et je fais... là, je suis en vadrouille à Helsinki, et donc j'ai pas forcément eu le temps de le faire, mais c'est un truc qui est très peu disruptif pour votre quotidien. Vous posez sur votre tapis de yoga, c'est quand même plus pratique d'avoir un tapis de yoga, parce que sinon c'est plus difficile de prendre ses appuis, mais bon, vous vous posez, et Vous vous lancez dans la séance qui est très bien faite. Vous avez la vidéo qui vous montre les positions. Vous avez des descriptions qu'on peut rendre plus ou moins complètes. Si c'est complet, ça va vous expliquer vraiment chaque déplacement à faire, à quel moment prendre une inspiration ou une expiration, ce genre de choses. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'habitue au nom des positions, etc., on peut réduire le nombre de, enfin, le détail de tout ça. Mais c'est vraiment construit de manière personnalisée et chaque jour, la séance est un petit peu différente. Alors, on a quand même... Moi, je fais surtout du débutant, hein, je suis très très mauvais en yoga, mais on a des bases. D'ailleurs, la position Down Dog, vous allez apprendre à l'adorer ou à la détester parce qu'elle revient tout le temps. C'est un peu... Je comprends le nom de l'app. Mais ça change un petit peu tout le temps, ça vous motive. Et le fait que ça soit super facile à lancer vous encourage à le faire un petit peu plus que sur d'autres applications. Super facile à lancer, ce que je veux dire, c'est que vous choisissez ce dont vous avez besoin et ça le module pour vous. Et le truc, c'est que... Alors, il y a un abonnement. L'app est gratuite pendant 7 jours, je crois, et puis vous avez un abonnement. Le prix de l'abonnement change en fonction de la période. Il y a des promos, ce genre de choses. Je vais aller sur le site pour voir le prix que c'est en ce moment. Mais je crois que c'est, on va dire, entre 30 et 50 euros par an. 30 à 50 euros par an... Alors là, par exemple, vous avez 33% de réduction en ce moment sur le site. Franchement, je crois qu'il y a toujours des réductions. On est à un prix de base d'une cinquantaine d'euros. Moi, je l'ai eu à genre 20 euros par an parce que c'était une promo à ce moment où j'ai pris l'abonnement. Mais même à 50 euros ou 60 euros, vu l'efficacité, on est au plus proche de ce que j'ai vu d'une vraie séance avec un vrai prof dans une salle. Et le prix que coûtent les vraies séances avec un vrai prof dans une salle, évidemment, c'est à des années-lumière. Enfin, vous payeriez 20 euros par séance, quoi. Et donc, le rapport qualité-prix, alors évidemment, c'est pas aussi bien que avec un vrai prof dans une salle qui peut vous dire ce que vous faites bien ou mal, etc. Ça peut peut-être même valoir le coup de faire une ou deux séances avec un prof de temps en temps pour s'assurer qu'on fait pas trop de bêtises, mais le rapport qualité-prix, vous pouvez en faire un quart d'heure par jour pour 20 euros par an ou pour 50 euros par an. Franchement, c'est un rapport qualité-prix, mais imbattable. Et encore une fois, c'est une expérience qui est très différente des applications de remise en forme dont on a l'habitude. C'est beaucoup plus efficace et donc je vous encourage vraiment à la tester, même si ça vous intéresse, même si vous avez déjà essayé ce genre d'app, parce que moi j'en ai essayé quelques-unes et j'ai jamais eu ce type de d'expérience. Alors peut-être que ça existe et que je les ai pas trouvées, mais sur celle-ci, je suis vraiment hyper enthousiaste et hyper convaincu. Je note que c'est Marion Doumain, notre amie et co-animatrice du Rendez-vous Tech, qui me l'a recommandé. Et vraiment, je suis hyper reconnaissant parce que c'est une solution, en fait, à un problème que j'ai et que beaucoup de gens ont. C'est comment faire un minimum d'exercice quand on a un travail sédentaire, assis à un bureau tout le temps, un minimum d'exercice facilement et de manière accessible. Et en l'occurrence, c'est des choses qui sont relativement douces, qui sont quand même des efforts, qui sont beaucoup d'étirements, et qui sont pas des trucs qui vont vous rebuter, ou moins que des trucs qui vont vous faire énormément suer. Le but est pas de faire de l'exercice qui va vous... Bien sûr, il y a des niveaux plus avancés, mais le but est pas forcément de faire des exercices qui vont vous muscler. C'est des exercices qui vont vous faire bouger et qui vont vous faire faire des étirements, etc., etc. Il y a des moments où c'est un petit peu dur, hein, je vous rassure. Le yoga, c'est pas forcément le truc hyper doux tout le temps. Il y a des pauses qui sont difficiles à tenir. Mais c'est pas le gros truc où on souffle et on sue, etc. C'est beaucoup plus doux que ça. Donc c'est plus accessible, donc on en fait plus. Là, je vous en parle, j'ai jamais été un gros adepte des trucs de sport, et pourtant, je vous en parle, j'ai envie d'aller faire ma séance de yoga. Donc ça, c'est un truc unique pour moi en tout cas. Donc peut-être que c'est un truc qui me parle moi particulièrement, que ça vous parlera moins, que qu'il y a d'autres choses qui vous parleront plus. Mais moi, je suis hyper convaincu, hyper enthousiaste, et je vous la recommande très 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 chaleureusement. Donc voilà, ça s'appelle Down Dog et c'est une application de yoga sur, il y a même sur le web, sur application, sur box télé, évidemment, sur téléphone, tablette, iOS, Android, etc. Un dernier petit truc, si vous voulez vous abonner, je vous recommande de vous abonner par le site web downdog.com plutôt que par votre téléphone, en particulier si vous êtes sur iOS, mais je crois que c'est la même chose sur Android, parce que vu qu'il y a la commission d'Apple et de Google en plus, eh ben l'abonnement est plus cher sur les plateformes mobiles. Donc, passez par le site, vous aurez sans doute une réduction conséquente par rapport au prix que vous auriez payé sur votre téléphone. Down Dog, The Last Kingdom et Viking, c'était mes recommandations du jour. Je vous remercie d'avoir écouté. Je suis NotPatrick sur Twitter, Facebook et sur Instagram. Je tweete pas encore et je n'insta pas encore mes séances de yoga, mais peut-être que ça viendra un jour. Et évidemment, si vous appréciez mon contenu, vous pouvez aller écouter le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous Jeu. Les choses chauffent dans l'été des consoles et dans la nouvelle génération, donc on a énormément de choses à dire sur le rendez-vous jeu. Si vous aimez un petit peu le jeu vidéo de près ou de loin, c'est une émission qui est hyper accessible, facile à comprendre et qui vous résume tout, hein. Donc le rendez-vous jeu, pensez-y. Et puis, merci d'avoir écouté Positron, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.